Historama, l'histoire d'un jour, aujourd'hui le 4 juin 1936, le jour où le Front populaire accède au pouvoir. Les élections législatives des 26 avril et 3 mai 1936 marquent un glissement vers la gauche qui obtient 378 députés et un effritement des partis du centre qui perdent une cinquantaine de sièges. Au sein même de la fraction majoritaire s'observent des changements profonds. Les communistes passent de 11 à 72 députés et la SFIO de 131 à 149, au détriment des radicaux qui n'en comptent plus que 109. Aussitôt les résultats proclamés, des cortèges se forment dans les quartiers ouvriers de Paris et de la banlieue, où un cri retentit, les soviets partout. Mais les soviets ne sont pas encore au pouvoir. Le président du conseil, Albert Sarraut, est toujours installé à l'hôtel Matignon. Son successeur, Léon Blum, chef de file des socialistes, n'est pas pressé de le remplacer. La distribution des portefeuilles ministériels se révèle une tâche délicate. D'emblée, les communistes refusent de participer au gouvernement. Ils entendent ainsi garder la liberté de critiquer. Le climat de kermesse populaire s'estompe bientôt. Au Havre et à Toulouse, 5 ouvriers sont licenciés pour avoir chômé le 1er mai. Alors éclatent les premières grèves de protestation qui se propagent rapidement aux grandes entreprises aéronautiques. Le 11 mai, Breguet-Debray, imité le 13 par Latécoère et le lendemain par les établissements Bloch, futur Dassault à Courbevoie. Les ouvriers ne se contentent pas de croiser les bras, ils occupent leur usine. Fin mai, la grève gagne à peu près tous les secteurs industriels. Comme les ouvriers s'interdisent de rentrer chez eux, leurs épouses viennent les voir à travers les grilles et barreaux, s'échangent caresses et baisers. Les ménagères apportent ravitaillement, couvertures et vêtements chauds, hissés aux étages supérieurs par des cordes. Cette atmosphère bon enfant cache une détermination sans faille. Partout, il est signifié au patron qu'il leur est interdit de paraître. Ils sont prévenus que s'ils s'avisent de faire donner les forces de l'ordre, les ouvriers casseront le matériel et mettront le feu au bâtiment. Dans les premiers jours de juin, la France compte 1 million de grévistes répartis en 12 000 entreprises. Les grèves intéressent l'industrie du bâtiment, la papeterie, l'horlogerie, les teintureries, les distilleries et les blanchisseries. Tandis que le marasme est total dans l'automobile, les 35 000 ouvriers de Renault rejoignent le mouvement le 28 mai. Le personnel des grands magasins parisiens, Bon Marché et Samaritaine cessent à leur tour le travail. La commémoration des morts de la Commune au mur des Fédérés ouvre un bref entracte. Le 24 mai, un cortège de 600 000 personnes traverse les rues de Paris. Les militants promènent à bout de bras des portraits de Louise Michel, Victor Hugo, Jules Vallès, Gustave Courbet. Des jeunes filles communistes revêtent le costume de 1793. Des socio-chrétiens portent une croix avec la faucille et le marteau. Le 4 juin, le cabinet du Front populaire est enfin constitué. 4 députés radicaux socialistes, Édouard Daladier, Marc Rucard, Yvon Delbos et Jean Zay, reçoivent les portefeuilles de la guerre, de la justice, des affaires étrangères et de l'éducation nationale. La SFIO occupe les ministères des Finances avec Vincent Auriol, l'intérieur avec Roger Salingros, la justice, l'économie nationale, l'agriculture et les travaux publics. L'apparition d'un ministère des sports et loisirs confié à Léo Lagrange traduit l'orientation sociale du nouveau gouvernement. Par ailleurs, 3 postes de sous-secrétaire d'État sont attribués à des femmes, alors qu'elles n'ont même pas le droit de vote. Présenté le 5 juin à la Chambre des députés, le cabinet Léon Blum obtient la confiance de l'Assemblée par 384 voix contre 210. Dès son entrée en fonction, le gouvernement de Front populaire est confronté aux grèves qui se durcissent. Des bagarres ont lieu à Paris, au Quartier Latin et en province. Des drapeaux rouges apparaissent dans les mairies, les capitaux partent à l'étranger. Il faut remettre au plus vite le pays sur ses rails. Et pour cela, convoquer les représentants des patrons et des ouvriers. L'initiative de la négociation vient du patronat. Le comité des forges contacte Léon Blum pour lui demander d'organiser une rencontre avec les syndicats. Elle a lieu le 7 juin à l'hôtel Matignon. Les revendications ouvrières composent un important cahier de doléances. Elles énumèrent 12 exigences, dont la semaine de 40 heures, les congés payés de 15 jours par an, l'augmentation des salaires, l'élaboration d'un plan de grands travaux, la nationalisation de la fabrication des armes de guerre, l'instauration de conventions collectives, la création d'un office du blé, la prolongation de la scolarité et la réforme du statut de la Banque de France. Parmi les objectifs à atteindre au-delà des congés payés, le programme revendicatif prévoit la création d'un fonds de chômage, l'assurance contre les calamités agricoles, un aménagement des dettes paysannes et l'institution d'une dette aux vieux travailleurs. Après avoir déclaré ses prétentions inacceptables, le patronat finit par céder. Les accords Matignon sont signés le 8 juin à 1h du matin. Ils admettent l'existence d'une vie syndicale avec des délégués du personnel dans les établissements de plus de 10 salariés. Les salaires réels sont augmentés de 15% pour les plus bas et de 7% pour les plus élevés, sans que l'augmentation globale ne dépasse 12%. Dans la soirée, Léon Jouot, secrétaire général de la CGT, commente l'événement à la radio. Pour la première fois dans l'histoire du monde, toute une classe obtient dans le même temps une amélioration de ses conditions d'existence. Les 11 et 12 juin, le gouvernement fait voter les lois instituant les conventions collectives obligatoires, les congés payés, réduisant sans diminution de salaire à 40 heures la durée du travail hebdomadaire. Plus tard sont votés les textes concernant les anciens combattants, ceux instituant un office national interprofessionnel du blé, les ligues, Croix de Feu, Jeunesse Patriote, Solidarité Française et Franciste sont dissoutes. La scolarité obligatoire passe de 13 à 14 ans. Enfin, les industries de guerre sont nationalisées et la Banque de France étatisée. Les milieux patronaux réagissent de deux façons opposées. Les plus grandes entreprises, dont les délégués ont participé aux accords Matignon et qui disposent de solides ressources financières, s'accommodent de la nouvelle situation. Par contre, les petites entreprises, qui fonctionnent souvent à la limite de la rentabilité, n'ont pas les moyens de moderniser leur équipement et rattraper par l'automation ce qu'elles perdent en coût de main-d'œuvre. La Confédération générale de la production française éclate. Les dirigeants des petites et moyennes entreprises tentent de limiter l'application des lois syndicales sous prétexte d'agitation politique et sociale. Le 11 juin, Paul Reynaud lance à Léon Blum: « Vous avez traité avec les 200 familles alors que 70% des ouvriers français travaillent dans des usines occupant moins de 100 ouvriers. Et ce sont des entreprises que vous frappez en plein cœur. À la croisée des chemins, vous avez pris la route des dictatures plutôt que celle des démocraties. » La grande conquête des accords Matignon reste les 15 jours de congés payés qui permettent aux prolétaires de goûter aux joies des vacances. Un vieil ouvrier écrit à Léon Blum: « Merci, monsieur le Président, de m'avoir permis de découvrir la mer avant de mourir. » Une petite fille de 10 ans lui envoie une carte postale ainsi rédigée: « Grâce à vous, j'ai fait la connaissance de mes grands-parents qui habitent la Bretagne. » Cependant, les occupations d'usines ne cessent pas. Jusqu'au 11 juin, elles s'étendent même. Lutte ouvrière recommande la formation de milices ouvrières armées. Nationalistes et communistes se heurtent un peu partout. De violentes bagarres éclatent régulièrement à la gare Saint-Lazare. Drapeaux tricolores et drapeaux rouges, marseillaises et internationales s'opposent. Les rapports entre les communistes et socialistes s'aigrissent. Les plus durs parmi les premiers veulent transformer le mouvement ouvrier en révolution. Les seconds estiment qu'il s'agit de consolider les premiers résultats en restant dans le cadre légal. Quant aux radicaux, ils affirment être déjà allés au plus loin. Ils refusent de sacrifier la liberté et le droit de propriété. Le 11 juin, Maurice Thorez, qui comprend que la révolution ne passerait pas, lance son célèbre mot d'ordre. Il faut savoir terminer une grève. Le reflux s'amorce lentement comme à regret. Début juillet, 1200 établissements sont encore occupés. La France compte 120 000 grévistes. Roger Salengros, ministre de l'Intérieur, promet devant les députés d'envoyer des gendarmes désarmés pour évacuer les usines. L'amorce des temps nouveaux que symbolise l'avènement du Front populaire s'observe lors de la fête nationale du 14 juillet. Dans l'après-midi, après le traditionnel défilé militaire, 400 000 personnes participent à l'immense cortège de la gauche unifiée qui se déroule de la Bastille à la République. Dans la tribune, Léon Blum tend le poing, Maurice Thorez lève une main ouverte. Nous retrouvons Historama dans un instant, après une pause musicale. C'est Michel Polnareff qui nous accompagne en chanson avec un titre de 1978, « Lettre à France ». Vous retrouverez ensuite la chronique littéraire « Un jour trois livres ». Aujourd'hui, un seul livre, mais un livre tout à fait essentiel, signé de l'écrivain portugais J.R. dos Santos, Le magicien d'Auschwitz, aux éditions Hervé Chopin. Et c'est Emmanuel qui vous présentera avec sa douce voix cette chronique.
je pense à toi là-bas. Oui, j'ai le mal à toi parfois, même si je ne le dis pas, je pense à toi tout bas.
Le magicien d'Auschwitz, comment celui qu'on surnommait le Grand Nivelli a survécu à l'enfer, de José dos Santos aux éditions Hervé Chopin. En 1939, les Allemands envahissent la Tchécoslovaquie, où sont réfugiés à Prague Herbert Levin et sa femme et son fils pour fuir le régime nazi. Ils s'y croient en sécurité. Le magicien qui se fait appeler le Grand Nivelli est très vite remarqué par les dirigeants SS, fasciné par le mysticisme et les sciences occultes. À l'arrivée des nazis, ils sont envoyés au ghetto de Theresienstadt, puis sa femme et son fils seront déportés à Auschwitz, et lui les suivra par amour. Vous avez bien sûr compris que Herbert et sa famille sont juifs. À Leningrad, en 1943, le jeune soldat Francisco Latino combat pour Hitler au sein de la division bleue espagnole. Ce légionnaire, réputé pour sa brutalité, se fait remarquer durant le siège russe. Les SS décident de l'envoyer en Pologne, où les enjeux sont devenus prioritaires. Il va accepter pour protéger la femme qu'il aime. Ni Herbert, ni Francisco ne savent encore que leurs destins vont se croiser à Auschwitz, un destin qui va dépasser leur propre histoire. L'un comme l'autre, à leur arrivée, ne comprennent pas l'horreur indicible des camps et imaginent que les faits qu'on leur raconte ne sont que des exagérations. Jusqu'à ce qu'il voit. Ce livre particulièrement prenant est construit comme un reportage, une sorte de reportage de guerre, avec une exigence constante de vérité. José dos Santos était un reporter de guerre. C'est grâce au manuscrit retrouvé enterré auprès des fours crématoires que l'auteur arrive à nous amener au cœur même de cet enfer. Le magicien d'Auschwitz, comment celui qu'on surnommait le Grand Nivelli, a survécu à l'enfer, de José dos Santos aux éditions Hervé Chopin. Et je vous le recommande vraiment, tout particulièrement. Nous allons terminer cette émission avec Michel Polnareff, âme câline, en 1967, et en remerciant bien sûr Lucas qui l'a réalisé.
Thank you.